Je pense que c'est la volonté de Dieu de faire du bien cet après-midi à quelques personnes, pour pas dire à tous. J'aimerais qu'on puisse ouvrir le Saint-Livre sans plus tarder dans l'évangile de Jean au chapitre 5. À partir du verset 1er, nous lisons ensemble. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui est descendu le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu couché et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, « Prends ton lit et marche. » Ils lui demandèrent, « Qui est l'homme qui t'a dit, « Prends ton lit et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple. Et lui dit, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Verset 19 nous dit, « Jésus reprit donc la parole et leur dit, « en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. » Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils, et lui montre tout ce qu'il fait, et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Amen. C'est un texte que nous aimons partager, lire, méditer. Et à la fois, c'est un texte qui peut nous interpeller. La scène se déroule donc à cette piscine, la piscine de Bethesda. Et Bethesda, je pense que la plupart, cet après-midi, une grande partie, nous pouvons définir, donner une définition de ce qu'est, de ce que signifie ce mot Bethesda. Maison de la miséricorde. Maison de la grâce, mais plus particulièrement, maison de la miséricorde. Et notre frère Nicolas, jeudi, nous parlait abondamment, nous a partagé sa pensée sur la miséricorde de Dieu. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais juste rappeler à votre esprit, pour ceux qui étaient là jeudi, et pour nous remémorer à notre esprit, peut-être ce qu'est la miséricorde de Dieu. Et vous allez voir que ça a de l'importance quand même dans ce texte. On pourrait définir la miséricorde de Dieu comme l'intérêt de Dieu pour l'homme malgré sa culpabilité. Où c'est un amour accordé, donc l'amour que Dieu veut nous accorder gratuitement, sans condition ni obligation préalable. Et il y a beaucoup de textes, si on devait prendre la concordance et sortir tous les versets où il est question de la miséricorde de Dieu, il y en aurait des dizaines et des dizaines. J'en ai relevé deux, et c'est deux parmi tant d'autres. Et notamment un en particulier, c'est le psaume, je le lis pour vous, le psaume 130 au verset 7, « Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de Dieu, et la rédemption est auprès de lui en abondance. » Tout ça pour dire que finalement, on se doute à la lecture de ce texte, Et vous allez voir que les personnes, elles-mêmes, lorsqu'elles se dirigeaient dans cette piscine, pouvaient s'attendre, se douter qu'il allait se passer quelque chose. On n'appelle pas la piscine de Bethesda l'endroit de la miséricorde de Dieu sans penser que nous allons rencontrer la miséricorde de Dieu. Une maison ne pourrait pas s'appeler la maison de la bénédiction si au préalable on ne savait pas qu'il pouvait y avoir et qu'on allait recevoir la bénédiction. Savoir où trouver la miséricorde, c'est important. C'est primordial. Savoir où se diriger dans ce monde, c'est quelque chose d'essentiel. Parce que tous n'arrivent pas à trouver la bonne direction. Tous n'arrivent pas à aller dans un endroit, dans l'endroit par excellence, la présence de Dieu, bien sûr, cet après-midi, pour nous, ça semble être évident. C'est en ligne de fond, lorsque nous avons médité ces chants, lorsque nous méditons ce texte, on se doute bien que derrière tout cela, il est question de Dieu. Et toutes ces personnes qui étaient malades, savaient s'il y avait un problème, si on a un accident de la route, s'il se passe quelque chose. C'était connu dans tout Jérusalem, dans les environs, va à la piscine de Bethesda. C'est l'endroit où il peut se passer quelque chose pour toi. Dans la parole de Dieu, on voit beaucoup de personnes, et j'ai relevé quelques exemples, de personnes qui elles-mêmes se sont posées des questions sur quel chemin prendre, sur quelle route, sur pourquoi aller là et pas dans un autre côté. Et au travers de leur vie, c'est peut-être notre histoire cet après-midi. Parce que c'est une chose de savoir où est la miséricorde, c'en est une autre quand même, de pouvoir être lavé, purifié de nos péchés, d'avoir cette liberté que Jésus veut nous offrir, ce pardon qu'il veut nous offrir. Parce que on veut tous la miséricorde, on veut tous la guérison, mais ce jour-là, il y avait, on l'a lu ensemble, 5 portiques. Donc, 5 fois un nombre incalculable de malades. On l'a lu ensemble. Et pourtant, on ne sait pas, on pourrait s'hasarder à dire un chiffre, mais on ne sait pas combien de personnes il y avait ce jour-là. Mais une seule a pu rencontrer Jésus-Christ. Est-ce que cette personne, c'était le chouchou du Seigneur? On ne peut pas dire ça. C'est pas possible. Est-ce que cette personne avait fait des choses meilleures? C'est pas ça. Moi, je suis convaincu que si le Seigneur est allé vers cette personne, comme nous l'avons lu, parce que le Seigneur Jésus ne fait pas les choses au hasard, il savait, dirigé par son Père, parce qu'il y avait dans le cœur de cette personne un écho dans lequel il allait, lui, pouvoir se retrouver. J'ai noté, par exemple, dans Acte 8, l'eunuque éthiopien, on se souvient à peu près de cette histoire, cet homme qui est allé à Jérusalem, qui retourne, qui n'a pas eu vraiment ce qu'il voulait. Il va lire l'Écriture, donc quelque part lui aussi, il se doutait que la bénédiction était là, qu'il pouvait trouver quelques réponses, qu'il pouvait peut-être y avoir quelque chose de caché qu'il n'avait pas encore trouvé, et pourtant il ne comprenait pas. Il ne comprenait pas ce qu'il lisait, à tel point que le Seigneur a dû envoyer Philippe pour qu'il lui pose cette question. « Mais comprends-tu ce que tu lis ? Et comment le pourrais-je ? » va répondre cet homme. « Comment trouver sa voie dans ce monde ? Comment savoir si cet endroit, c'est la vérité ? Comment ? Parce qu'on a vite fait de vouloir comparer. On a vite fait de vouloir mettre dans des cases pour pouvoir nous rassurer et pouvoir dire ben, « je suis allé là, j'ai essayé, j'ai pris ce qu'il y avait de bon ici, j'ai essayé de prendre ce qu'il y avait de bon là, j'ai essayé de faire aussi mon mélange, comme ça je fais ma propre religion. » Mais laissez-moi vous dire qu'il y a quand même un chemin par excellence, un chemin qui ne pourra jamais nous tromper. Peut-être que vous ne savez pas où chercher, vous ne savez pas dans quelle direction aller, mais cet après-midi, on est là quand même pour vous annoncer que c'est Jésus-Christ qui est venu pour ouvrir, pour nous montrer ce chemin dans lequel nous ne pourrons jamais être déçus. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ? On peut avoir beaucoup de questions, vous savez, On peut se poser énormément de questions. On peut être proche de la maison de la miséricorde sans jamais rencontrer le Seigneur. Et on va le voir. Un disciple du Seigneur. Et pourtant, cet homme était enseigné, proche de Jésus. Vous savez, ce n'est pas la proximité qui fait tout. Ce n'est pas parce qu'on a l'habitude de venir à l'église que ça fait tout dans notre vie. Ce n'est pas parce qu'on a eu une éducation religieuse qu'on va s'en sortir mieux qu'une autre personne. Et toutes ces choses qui sont en nous méritent qu'elles passent au travers du filtre de la parole de Dieu. Parce que la Bible nous dit qu'il n'y a qu'un seul chemin. Il n'y a qu'un seul chemin. Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Beaucoup de personnes aujourd'hui cherchent un chemin parce qu'ils n'ont pas compris. Et la réponse de Jésus-Christ, c'est une réponse qu'il a donnée pour l'ensemble de l'humanité. Pour nous cet après-midi, je l'ai dit, je le répète, c'est dans Jean 14, 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. La miséricorde se manifeste de telle sorte que Jésus est venu pour que nous puissions connaître, prendre, marcher sur ce chemin qui nous mène jusqu'à Dieu. La miséricorde, c'est que Dieu est venu vers nous parce qu'il savait aussi qu'il y a des choses qu'on ne pouvait pas faire. Et vous voyez, pour cet homme, c'est ce que Jésus-Christ a fait. Cet homme ne se posait pas la question de où aller. Pour lui, c'était clair. Cet homme, lui, il avait trouvé l'endroit, mais ce n'était pas suffisant. Parce que s'il y a des personnes qui cherchent, il y a des personnes qui peuvent trouver, mais qui ne vont pas jusqu'au bout. Et c'est quand même différent. Si on devait adapter cette histoire à notre date, on pourrait dire que cet homme est malade depuis 1978. Ça fait long, 1978. Peut-être c'est la date de naissance de quelques-uns parmi nous cet après-midi. 1978, chaque année, chaque jour, la maladie est là. Chaque jour, un espoir. La fin de la journée, l'espoir qui tombe. Le lendemain, nouvelle journée, un espoir. Est-ce que je vais être guéri? Est-ce qu'il va y avoir un changement dans ma vie? Est-ce qu'il va se passer quelque chose? La journée se termine et c'en est ainsi tous les ans, de 1978 jusqu'à 2016. Il m'a fait réfléchir cet homme, vous savez, parce que dans la parole de Dieu, on voit Jésus qui va vers les personnes, qui demande qu'ils manifestent leur foi. Et là, c'est Jésus qui va vers cette personne. Vous savez, nous, si on nous demandait de réfléchir, d'analyser, on aurait dit, ah, mais cet homme, ça fait trop longtemps qu'il est là-bas, il n'a pas su avoir la foi, s'il est comme ça, c'est de sa faute après tout. Si Dieu avait voulu le guérir, il aurait mis un ange au bon moment pour qu'il puisse être guéri, ceci ou cela. Mais vous savez, Jésus, il ne réfléchit pas comme nous. Il va vers cet homme. Parce qu'il y avait un message à passer à cet homme, et ce message, c'est celui qu'on doit retenir pour notre propre vie. Si vous deviez retenir une seule chose, c'est cela. Parce que cet homme était au bon endroit. Cet homme voyait le miraculeux tous les jours. Je le répète, excusez-moi, cet homme était dans la maison de la miséricorde. Cet homme voyait tous les jours, ou tous les deux jours, le surnaturel, la guérison, le miraculeux. Toute sa vie, 38 ans de sa vie, il a été au bénéfice de cela. Pourtant, rien ne semblait et rien ne bougeait, rien n'évoluait pour sa propre vie. Parce que l'important pour lui, c'était pas tant sa maladie, c'était pas tant ce qu'il pouvait vivre, mais c'était son âme. Et si Jésus est venu vous le voir, si Jésus a fait ce chemin pour aller jusqu'à cet homme, ce n'est pas tant pour la guérison, mais c'est pour son âme. Parce que laissez-moi vous dire que s'il avait été dans l'eau, lorsque l'ange aurait agité la surface de l'eau, s'il avait été guéri au bout de 20 ans, Est-ce que ça aurait été bien ? Oui. Oui, c'est bien. Il aurait été guéri. Mais on ne sait pas. On ne sait pas si son âme aurait été sauvée. Il y a des personnes, et c'est peut-être le cas de quelqu'un cet après-midi, où l'on peut être tellement figé sur un problème, tellement fixé sur une douleur, sur une souffrance, sur une difficulté. Pendant tellement d'années, on peut être centré sur telle et telle chose qu'on oublie tout le reste, que plus rien n'existe autour de nous, que rien ne semble avoir de l'importance, si ce n'est ce problème. Et au travers de ce texte, Jésus est en train de nous réapprendre l'importance de prendre soin de notre âme. Il est en train de nous rappeler que notre âme est éternelle et qu'un jour, on sera confronté à lui. Et suivant nos choix, suivant nos décisions, c'est pas dit qu'on soit pour l'éternité avec lui. Il y a un deuxième point sur lequel j'aimerais m'attarder un instant pour appuyer ce que je suis en train de partager avec vous. C'est que cet homme était au bon endroit, cet homme voyait le miraculeux, mais cet homme, je pense, passait à côté de l'essentiel, c'est évident, parce qu'il y a ce petit détail qui est quand même important pour nous, c'est ce que nous dit ce verset 2. « Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis. » Le titre de ce message, c'est « Ne restons pas près de Jésus », pour que vous puissiez comprendre de suite ma pensée. Bien sûr, il s'agit d'une situation géographique, d'un emplacement, d'un lieu. Mais ce qui serait intéressant pour nous de pouvoir considérer, au-delà de l'emplacement géographique, c'est finalement, est-ce que notre vie ne ressemble pas à sa vie ? Passer toute une vie en espérant quelque chose, passer toute une vie en voyant les autres être au bénéfice de la grâce, de l'amour de Dieu, passer une vie en voyant le Seigneur Jésus agir, pardonner, sans pour autant que notre vie puisse changer. Parce que le souci, et ça restera un souci, pour cet homme, ça aurait pu être le souci. Et c'est pour cela que tout à l'heure je disais que s'il avait été guéri, ça aurait pas été ça l'important, parce qu'il aurait pu être guéri, il aurait pu se relever lui-même, il aurait pu partir en jetant son lit, mais en restant près toute sa vie de la porte des brebis. Je vais le dire d'une manière différente, bien que je pense que vous ayez compris là où je veux en arriver, où je veux en venir, parce que dans Jean chapitre 10 au verset 7, Jésus est en train de faire une déclaration extraordinaire à tous ceux qui étaient là, une déclaration sur son amour, sur son ministère, sur ce qu'il veut faire dans nos vies. Quand tout à coup il va se mettre à proclamer en vérité, comme pour appuyer cette vérité extraordinaire, comme pour que ça puisse être gravé dans nos cœurs. « Je suis la porte des brebis. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Et la difficulté, vous comprenez bien, pour cet homme, c'est pas de rester près de Jésus, c'est pas de rester près de la porte des brebis, mais c'est qu'à un moment donné, pour que notre vie puisse évoluer, pour que notre vie puisse recevoir le pardon de nos péchés, ce n'est pas de rester, de venir à l'église, semaine après semaine, la maison de la miséricorde par excellence, en s'asseyant comme cet homme, en se disant « mais peut-être ». Peut-être qu'un ange va venir pour secouer ma vie. Peut-être qu'un ange va venir pour intervenir et que vous puissiez repartir de ce lieu en vous disant « La semaine prochaine, peut-être ça sera la bonne. » Et vous pouvez, excusez-moi, multiplier les semaines, multiplier les années à l'image de cet homme. Peut-être de 1978 à 2016, sans que rien ne se passe. Parce qu'à un moment donné, la Bible est catégorique, c'est Jésus la porte des brebis. Pour être sauvé, il ne faut pas rester devant cette porte. Pour être sauvé et recevoir le pardon de nos péchés, il ne faut pas rester à côté de cette porte, il ne faut pas rester proche de cette porte, mais à un moment donné, il faut vouloir la traverser. Il y a d'autres portes, vous savez. La parole de Dieu aussi est tellement riche. Il y a tellement de portes. Et peut-être que vous êtes là. Peut-être que vous ne saviez pas où chercher. Vous ne saviez pas quel chemin prendre. Bien que la Bible quand même dise que celui qui cherche trouve. Néanmoins, on avance en tâtonnant pour chercher notre chemin. Néanmoins, quelquefois, ça peut ne pas être évident et on peut se retrouver devant des portes qui sont quand même compliquées. Job pourra dire « Mon espérance, où donc est-elle ? Mon espérance, qui peut la voir ? Elle descendra vers les portes du séjour des morts. » C'est une porte devant laquelle ou à côté de laquelle on n'aimerait pas rester. On n'aimerait pas stationner devant cette porte. Notre frère y faisait référence hier soir à la réunion de jeunesse, on peut être à la porte de Sodome. Et vous n'êtes pas sans ignorer le jugement de Dieu sur Sodome. Peut-être dans votre vie, vous vous retrouvez devant de telles portes. Ce n'est pas celle-là qu'il faut franchir. Ce n'est pas celle-là, ce n'est pas pour cela que Jésus est venu dans ce monde. Jésus n'a pas donné sa vie sur le bois de la croix pour que nous puissions rester et traverser la porte de Sodome, pour que nous puissions traverser la porte des séjours des morts, parce que notre espérance est anéantie. Il est évident que si toute votre vie, vous restez où vous êtes, en pensant que ce n'est pas à vous de faire le premier pas, en pensant que finalement c'est Dieu qui vous doit quelque chose et que vous attendez qu'il vienne, il y aura quand même un problème, une difficulté. Parce que Dieu ne nous doit rien, tout n'est que grâce. Et quand Jésus s'est approché de cet homme, c'est là pour manifester sa miséricorde, puisque Jésus incarne la miséricorde, l'amour parfait de Dieu pour nous montrer, pour que nous puissions avoir cette empreinte exacte de l'amour de notre Père. Il y a ce texte qui est bien connu, qui est même tourné à la dérision, mais qui pourtant relate une vérité extraordinaire, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Qui cet après-midi va décider d'arrêter d'être près de la porte des brebis? Qui va dire, mais moi, il est temps que je passe par cette porte, que j'entre par cette porte? Combien d'années il vous faudra? Combien de semaines? Combien de jours? Combien de souffrances? Combien d'échecs? Combien de désespoir? Combien d'illusions il vous faudra pour comprendre que la seule et unique porte qui vaut la peine d'être franchie, c'est la porte de Christ. Et c'est ce que cet homme va faire. Il y a ce psaume, on pourrait peut-être le lire ensemble. C'est le psaume 24. Le psaume 24, et on va lire le verset 7, même jusqu'au verset 10. Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux, élevez-les, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire, l'Éternel des armées? Voilà le roi de gloire. Porte, élevez vos linteaux. Il y a une porte, vous savez, que le Seigneur Jésus ne pourra jamais forcer. Il y a une porte qui ne pourra jamais bousculer, c'est la porte de notre cœur. Et vous savez, cet homme, depuis 38 ans, était là, dans la misère. Tous les jours, il voyait des personnes souffrir. Tous les jours, c'était, on ne peut pas imaginer. Mais ce qu'il va faire, c'est qu'il va quand même élever les linteaux de son cœur pour que le roi de gloire puisse rentrer. Et quand même, ça vaut la peine. Quand même, pour lui, ça a été une bénédiction. Parce que c'est évident qu'il a été guéri. c'est évident, mais on comprend quand même qu'il s'est passé quelque chose par rapport à ce que Jésus-Christ va lui dire, mais aussi par rapport à son comportement. Vous savez, ça demande peut-être du courage à certains d'admettre que pendant une vie, on s'est trompé, que pendant 38 ans, on était à côté de la solution sans jamais la voir. C'est pas facile. C'est pas facile. Notre cœur est rapidement enclin à rester fixé sur nos positions par rapport à notre orgueil. 38 ans en pensant qu'on est à côté de la solution sans jamais la voir. Mais cet homme, il ne va pas être dans l'orgueil. Il ne va pas se dire, mais tant pis, ce que j'ai fait, je ne regrette pas ceci ou cela. Cet homme, c'est ce qu'il va faire. Il va élever les linteaux de son cœur pour que le roi de gloire fasse son entrée. Et cet homme, après qu'il ait été guéri, on le retrouve dans le temple. Alors bien sûr, vous allez me dire, ce n'est pas parce qu'il était à l'église qu'il a fait une expérience, qu'il est sauvé. C'est vrai. Ce n'est pas parce qu'on vient à l'église qu'on est sauvé. C'est vrai. Mais quand même, ça dénote dans ce texte un comportement où il n'est pas dans la rébellion. Il aurait pu retourner, vous savez, la Bible aurait pu nous dire, mais il est retourné à la piscine en disant, ben vous voyez, moi je suis guéri et pas vous. Ou il aurait pu retourner, voir toutes les personnes qui lui ont passé devant, parce qu'il y en avait, la Bible nous le dit. Peut-être qu'il avait le temps de noter, ben tiens, telle personne est passée devant moi, m'a bousculé, telle personne m'a marché dessus, telle personne. Il aurait pu faire une liste, et une fois qu'il était guéri, il aurait pu se dire, ben voilà, je vais régler les comptes avec toutes ces personnes. C'est pas ce qu'il a fait. Et on pourrait bien sûr, vous comprenez qu'au travers de ce texte, c'est quelquefois notre propre comportement. Mais cet homme, on le retrouve dans le temple, parce que je pense quand même qu'il avait compris qu'il devait adorer Dieu, qu'il devait le remercier. Notre place, elle n'est plus dans le monde après. Notre place, elle ne doit pas se coller avec le monde. C'est pas possible. Si Jésus vous fait grâce, s'il vous a pardonné, bien sûr, on est du monde, Jésus va prier. C'est évident, on n'est pas appelé à vivre déconnecté du monde, mais notre place, elle n'est quand même plus dans le monde. Vous savez, la repentance, c'est cela que ça produit. C'est qu'on demande pardon pour nos péchés, mais on renonce au péché, on ne veut plus pécher. Et la phrase que Jésus-Christ va lui dire, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire », on comprend qu'il s'était passé quelque chose, il a demandé pardon pour ses péchés. On comprend que lui, dans son côté, il y a eu quelque chose. Et l'encouragement du Seigneur Jésus-Christ, c'est pour lui rappeler, pour nous rappeler cette vérité, qu'il peut y avoir quelque chose de pire que de rester paralysé, bloqué pendant 38 ans, c'est de passer l'éternité en enfer. Et c'est cela, l'évangile, ça nous appelle à prendre une position. Ça doit nous questionner, ça doit te questionner, vous questionner. Mais de quel côté est-ce que vous êtes? Qu'est-ce que votre vie? Où est-ce que vous allez passer l'éternité? Est-ce que vous vous souciez toujours de votre santé physique, de votre bien-être physique, moral, en délaissant votre âme, où il y a quand même cette éternité, il y a quand même la question de l'éternité qui est là dans votre cœur? Parce que si ce que cet homme a vécu, si cela est acté pour Dieu, si Dieu est capable d'écrire nos noms dans le livre de vie, c'est quand même parce que Jésus-Christ est venu, les chants l'ont présenté, notre frère Antoine l'a présenté, tout présente cela, c'est que Jésus-Christ est venu mourir sur le bois de la croix, verser son sang, porter cette couronne d'épines, voir ses mains et ses pieds cloués, voir son côté percé pour que nous puissions obtenir le pardon de nos péchés et voir notre éternité basculer, changer de camp, changer de côté. Si on était dans les ténèbres, on passe dans la lumière, non par nos propres actes, non parce qu'on est meilleur, non parce qu'on s'est attiré la sympathie de notre Dieu, mais parce que Jésus, qui est Dieu, s'est sacrifié pour nous. Il est mort et ressuscité, et c'est cela le message de l'Évangile. C'est cela la porte des brebis. C'est cela, cette unique porte qui nous ouvre le chemin, la voie vers la vie éternelle. J'aimerais qu'on puisse lire ce dernier texte pour conclure. C'est dans le psaume 118. Psaume 118, verset 18. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice, j'entrerai, je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel, c'est par elle qu'entrent les justes. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. Je ne sais pas si on s'imagine ce moment. Ouvrez-moi les portes de la justice. Je ne sais pas, est-ce qu'on aimerait pouvoir dire cela? On aimerait, je ne sais pas comment ça va se passer si, lorsque le Seigneur Jésus va revenir, si jamais il devait nous reprendre aujourd'hui, demain. Je ne sais pas si on s'imagine la grâce de pouvoir dire, mais ouvrez-moi les portes de la justice. Ouvrez-moi ces portes parce que voici la porte de l'Éternel, c'est par elle qu'entre le juste. Ouvrez-moi ces portes parce que j'ai accepté Jésus-Christ. Cette porte-là, vous qui êtes là, bien-aimés, mes amis, cette porte-là, elle ne peut être ouverte que pour ceux et celles qui ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Pas ceux qui sont restés à côté, pas ceux qui sont restés devant, pas ceux qui sont restés au loin, mais pour ceux qui ont traversé Jésus-Christ, la porte de la justice pourra s'ouvrir pour le jour du retour du Seigneur ou pour le jour où il va nous reprendre. On pourrait prier le Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu nous parles. Seigneur, oui. Pour nous qui sommes justifiés, c'est une bénédiction, c'est une grâce de pouvoir dire « Ouvrez-moi les portes de la justice. Voici les portes de l'Éternel, c'est par elles qu'entre les justes. » Seigneur, qui est juste sur cette terre, sinon ceux que tu as pardonnés, purifiés par le sang de ta croix, Jésus-Christ ? Merci pour cela, merci pour cette grâce. Seigneur, merci pour ta miséricorde qui est venue nous chercher tel qu'on était, sans regarder à ce qu'on a fait, Seigneur, merci. Merci parce que tu te plais à nous bénir. Tu abondes en bénédiction. Seigneur, oui, je veux te louer pour cela. Et je veux prier, peut-être dans ce lieu, il y a quelqu'un qui reste encore à côté de cette porte, qui ne veut pas la franchir, mon Dieu, par ton Saint-Esprit. Seigneur, je sais que tu ne peux pas bousculer, violenter les cœurs, mais rappelle-toi ces personnes, afin qu'ils puissent se repentir, vouloir traverser, passer cette porte et être sauvés pour l'éternité. Merci, mon Dieu, pour tout ce que tu vas faire, tout ce que tu as prévu de faire, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.